Tchatchatch, nous allons parler de la réforme des universités.
Nous voulons que toutes les universités deviennent autonomes dans un délai de 5 ans. Et pour cela, l'État sera à la fois un partenaire et le garant de la réussite de la réforme.
Moi, je pense que les études, elles sont faites pour avoir une connaissance générale et non pas nous préparer au monde de l'entreprise.
L'université en France n'est pas actuellement en état d'apporter sa contribution, que je crois essentielle, au combat de notre pays pour son développement économique, social et culturel.
Étudiants mal orientés, mal encadrés, décrochant des diplômes sans débouchés professionnels ou quittant les filières sans diplôme du tout, bâtiments vétustes, à croire qu'il n'y a rien à sauver à la fac.
Tchatchatchat. Olivia Gesbert sur France Inter.
Bienvenue à tous pour cette seconde partie de Tchatchatchat. Je vous rappelle que cette émission a été préparée par Perrine Malinge, c'est assez tôt, Catherine Pinto, Romain Boutilly, qu'elle est réalisée actuellement par Lilian Allôme, aidée de Lydwin Caron et de Julien Chabassu. Alors on y va, on parle aujourd'hui de l'autonomie des universités. La réforme a été votée cet été, elle entrera en vigueur à la rentrée. Il s'agit en somme de remodeler en profondeur, en tout cas c'est un début, l'enseignement supérieur. Modernité, efficacité, excellence, c'est le leitmotiv du changement. Mais qu'est-ce qui va bouger dans les faits et pourquoi une partie de la communauté universitaire s'oppose-t-elle à ce projet? On en parle ce matin avec vous au 01 45 24 7000 et sur franceinter.com et avec mes invités, Anne-Marie Helvétius, vice-présidente du conseil scientifique de l'université Paris 8 Saint-Denis. Bonjour.
Bonjour.
Rappelons juste que la grande majorité des membres de la conférence des présidents d'université, la CPU, c'est ça comme on l'appelle, qu'on a beaucoup entendu d'ailleurs parler sur ce sujet, est plutôt favorable à cette réforme, estimant que le milieu universitaire a beaucoup à y gagner. De votre côté, bon, on va essayer de vous situer, vous n'êtes ni tout à fait pour, ni franchement contre. C'est un avis plutôt mitigé que vous allez tenter de nous expliquer, vous nous direz pourquoi tout à l'heure.
Je pense
il y a des points positifs et des points vraiment discutables, notamment
de faire un petit peu la synthèse.
On va y arriver. Avec nous également Christian de Montlibert, professeur émérite de l'Université de Strasbourg et auteur de « Savoir à vendre » paru aux éditions Raison d'agir. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et on aura par téléphone également Jacqueline Hénin, présidente de la conférence permanente du Conseil national des universités. Est-ce que vous nous entendez, Jacqueline Hénin?
Oui, je vous entends.
Bonjour. Bonjour. Merci aussi d'être avec nous. Vous nous expliquerez notamment un peu la complexité ou en tout cas ce qui va se mettre en place du côté du recrutement des enseignants-chercheurs. Ça, c'est un point qui vous préoccupe beaucoup. On en reparle tous ensemble dans quelques instants. Il me reste à vous présenter notre reporter interactif, c'est Julia Foyce, qui se sent peut-être un petit peu seule là en ce moment, place de la Sorbonne. Ils sont un peu lourds pour vous, les pavés du boulmiche, comme on dit.
Alors, Julia, les pavés du boulmiche, là, on voit que vous êtes comme moi, très, très rive droite, hein, Olivia. Il n'y en a plus vraiment des pavés. C'est plutôt de l'asphalte. Il paraît que c'est beaucoup plus difficile
à soulever. D'accord.
Je vais bien essayer d'arracher de l'asphalte pour essayer de le balancer. J'y arrive pas. Ça commence très, très mal, ce reportage. Autant vous dire, je le sens pas du tout. Je vous rappelle que si je ne suis pas fichue de trouver un étudiant en colère sur les 35 000 que compte la Sorbonne, moi, je suis juste grillée à vie sur les ondes de France Inter. Donc, je vous raconte pas la pression. Alors, déjà qu'ils étaient moyennement motivés en juin, qu'ils le sont encore moins visiblement pour septembre, qu'on est encore en août, qu'il est 10h du matin et que je vous parle d'expérience à 10h, un étudiant s'adore. Bref, je vous jure, on n'est vraiment pas épaulé, moi, ce reportage. Comme je vous le disais, je ne le sens pas vraiment. Je suis en train de m'approcher de l'entrée de la Sorbonne, la tête que vous me voyez, je vais essayer de passer là-bas. Il y a des messieurs en bleu qui vont peut-être me renseigner. Bonjour monsieur, je suis reporter à France Inter, une petite radio étudiante. On ne m'écoute même pas en plus. Est-ce que je peux faire un reportage sur des étudiants en colère?
Il n'y a personne, il n'y a pas d'étudiants.
Ah ben voilà, ça commence bien. Un râteau en direct sur France Inter, Julia Foyce.
Merci beaucoup Julia, à tout à l'heure. Avant d'être votée, cette réforme a suscité de nombreuses critiques, et notamment du côté des étudiants et des enseignants-chercheurs. Face aux menaces de grève, on dit que le gouvernement a un peu reculé sur une partie de sa réforme. Du coup, là, au baromètre des conflits sociaux, on annonce une rentrée effectivement plutôt calme, comme le soulignait Julia Foyce. Les étudiants auraient d'autres soucis, des histoires de sous, d'importants problèmes de logement. La question du salariat étudiant est pour l'UNEF, en gros, le premier syndicat étudiant, La priorité en ce moment est au social. Alors, commençons tout de suite cette discussion sur la réforme des universités. Qu'est-ce qu'on entend par autonomie, Christian de Montlibert? De quelle autonomie parle-t-on?
Si vous voulez, je vais prendre un peu de recul. Il me semble que pour traiter un problème, une approche historique est tout à fait nécessaire.
Prenez un peu de recul, mais rapprochez-vous de votre micro quand
D'accord,
même.
D'accord, ça, volontiers. Pratiquement, il faut commencer en 1989. Ce n'est pas une loi Sarkozy-Pécresse, mais tout un ensemble de réformes qui ont été initiées dès 1989. Un groupe de réflexion composé de 40 plus grands, des patrons des plus grandes entreprises européennes, la table ronde européenne et la table ronde des industriels, se réunit et rédige un rapport sur les réformes nécessaires de l'enseignement supérieur. Et disent immédiatement que les enseignants, je les cite, ont une compréhension insuffisante de l'environnement économique, des affaires, de la notion de profit. Et il s'agit tout de suite, dès 1989, de réformer l'université pour justement donner aux étudiants une autre approche de la notion de profit. Deuxièmement, ils énoncent que l'enseignement supérieur doit devenir un prestataire de services éducatifs. Là aussi, les choses sont dites. Très clairement, il s'agit d'une intervention de transformer l'université pour qu'elle vende de l'enseignement. Enfin, ils souhaitent bien entendu, pour que l'on réduise les impôts des entreprises, que l'on réduise les dépenses d'État dans l'enseignement supérieur, donc que l'on optimise la gestion des ressources humaines, je cite, et qu'on rationalise pour réduire les dépenses. En 1991, ce rapport de la table ronde européenne est repris pratiquement intégralement par la Commission européenne, qui parle d'université compétitive, de concurrence entre prestataires, qui parle de clients pour la première fois, qui dit que l'université doit être ouverte sur les réalités économiques et sensible au concret. Je vais y revenir, on nage en plein mythe, on commence à nager dans le langage d'aujourd'hui, c'est-à-dire le mythe de la modernité, de la concurrence, etc. 1994, c'est la Banque mondiale. 1996, c'est l'OCDE. 1998, 1999, 2000, c'est l'OCDE qui intervient, qui fait des rapports et qui dit que l'enseignement supérieur doit maintenant démarcher des contrats. Écoutez le langage, c'est le langage du commerce. Prospecter les marchés. Qu'il faut développer un entrepreneuriat universitaire. Qu'il faut que les universitaires apprennent à manager les compétences. Et critique les universités en leur reprochant d'être peu flexibles, peu efficaces, trop lentes à s'adapter au changement.
Donc à bien vous comprendre, Christian
de Montlibert, si vous voulez bien.
Je voudrais qu'on présente aussi la réforme, peut-être d'abord, histoire que les auditeurs comprennent votre point de vue et votre prise de position, donc peut-être terminée.
Oui. Le Conseil européen, donc, les universités sont peu flexibles, peu efficaces, trop lentes à s'adapter au changement. Pour quelles raisons? Parce qu'elles ont des directions collégiales. Parce qu'elles recherchent des consensus, parce qu'elles fonctionnent sur un système électif. Il faut transformer cela et avoir des présidents qui soient de véritables entrepreneurs, en quelque sorte, et cesser et que les conseils d'université n'aient plus le pouvoir qu'ils ont eu jusqu'alors. Le Conseil européen de Lisbonne, en 2000, se donne jusqu'en 2010 pour transformer les universités. Stockholm, en 2001, Barcelone, en 2002, ne feront que confirmer cette volonté de réforme des universités. Il y a donc eu la mise en place d'un processus qui va commencer par une réforme du LMD, c'est-à-dire licence, maîtrise, doctorat, par la mise en place des crédits européens, c'est-à-dire des systèmes d'unités de valeur que l'on peut collecter, etc., par effectivement maintenant la réforme de l'autonomie. Je le rappelle, le gouvernement Raffarin avait présenté un premier projet sous la direction de M. Ferry. Il a été repoussé par les manifestations étudiantes. Il revient maintenant sous une autre forme légèrement modifiée, mais le principe est simple, est à peu près le même. Donc, on est dans un ensemble, et dans un ensemble qui n'est pas terminé, car après la réforme de la direction des universités, il y aura sans doute une réforme de l'organisation des temps d'enseignement, des activités des enseignants, etc., de la sélection des enseignants.
Donc, on est bien
dans un ensemble qui va dans le sens de soumettre l'université à toutes les pressions du néolibéralisme.
Voilà, et pour vous, on file vers une privatisation des universités. On va aussi vers
peut-être
cette
pas,
d'un modèle
anglo-saxon. Peut-être pas, mais en tout cas une déréglementation.
Ce qui est sûr, c'est que vous, dans ce terme d'autonomie, on vient de l'entendre et de le comprendre, je crois que c'était assez clair, vous mettez plutôt le sentiment donc, d'une gestion entrepreneuriale, on va vers cela. Certains estiment qu'on va vers une gestion plus démocratique. Peut-être on va laisser la ministre Valérie Pécresse réexpliquer son projet. C'était juste avant le vote de la loi. On l'écoute.
Nous programmons une grande réforme sur 5 ans,
de nos universités. D'abord avec une loi qui passera cet été, la loi sur les libertés des universités. Cette loi, elle va permettre aux universités de fonctionner de manière moderne et efficace, de façon à ce qu'elles puissent créer des filières de formation, qu'elles puissent recruter les meilleurs enseignants, qu'elles soient beaucoup plus libres dans leur environnement. Et ça, ce sera évidemment au bénéfice des étudiants pour la qualité de leur diplôme. On aura des conseils d'administration divisés par deux, stratèges qui pourront décider vite. On aura aussi des nouvelles responsabilités, la possibilité pour les universités de gérer leur budget, de recruter plus rapidement leurs professeurs, la possibilité aussi de gérer leur patrimoine immobilier. C'est très important parce que ça leur donnera tous les moyens d'une vraie politique d'enseignement supérieur et de recherche d'excellence.
Anne-Marie Helvétius, est-ce qu'on a à peu près bien résumé là la réforme, donc en dehors de cette image globale, cette photographie que nous livrait Christian de Montlibert à l'instant, qu'est-ce qu'elle contient exactement cette réforme des universités?
Alors, d'abord, il faut tout de même attirer l'attention, je pense, des auditeurs sur le fait qu'on a laissé tomber le terme d'autonomie pour passer au terme de liberté et de responsabilité. C'est assez intéressant. Comme l'a dit Valérie Pécresse, il ne s'agit pas nécessairement de rendre les universités autonomes par rapport à l'État. Il faut définir les libertés dont elles jouiront dans une série de domaines. Alors, quand vous le disiez tout à l'heure, lorsque vous évoquiez la CPU, c'est-à-dire la conférence des présidents d'université, pourquoi les présidents d'université, en grande majorité, sont plutôt favorables à cette réforme? Parce que cette réforme leur donne, aux présidents, beaucoup plus de poids dans la prise de décision qu'ils n'en ont aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que non seulement, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails techniques du mode de gouvernance qui est défini dans le nouveau texte de loi, mais je pense que ce qui est assez facile à comprendre, c'est que le conseil d'administration qu'évoquait Valérie Pécresse, qui va être réduit, en fait, il va surtout être composé d'une façon tout à fait différente. C'est-à-dire que c'est la liste majoritaire qui va gagner les élections, qui aura la moitié des voix, des sièges.
Alors, il y avait 60 membres avant, et là, il va être réduit de moitié. Il n'y aura plus qu'une trentaine de membres à l'intérieur.
En fait, ça dépend beaucoup des universités. Dans la mienne, il n'y en a que 32. Donc, c'est vraiment très variable à l'heure actuelle. Oui. Ce qui est certain, c'est qu'on passe maintenant à de nouvelles normes qui fixent entre 20 et 30 membres. Mais la moitié de ces membres seront des élus de la liste majoritaire, plus des membres extérieurs qui sont désignés par le président lui-même.
Alors justement, Jacqueline Hénin, est-ce qu'un conseil d'administration plus resserré, est-ce que ça rime forcément pour vous avec moins de démocratie, avec la fin du principe de collégialité, ou est-ce que ça peut être une bonne chose en termes de dynamisme dans la prise de décision, Jacqueline Hénin?
Du point de vue du nombre, je pense que ça peut être une bonne chose, parce que je pense que quand il existait des conseils d'administration pléthoriques, ce n'était pas nécessairement positif par rapport à ce qui se passait dans une université lambda. En revanche, c'est ce que vient d'évoquer Anne-Marie Helvétius, ce qui va être très très modifié maintenant, c'est la composition des conseils d'administration. Et le fait, comme elle l'a dit, que d'une part ce soit un conseil d'administration largement composé à partir de la liste qui suivra directement le président qui lui-même aura été élu, ne va pas nécessairement dans le sens d'une représentativité de la communauté scientifique d'une université donnée, selon les champs disciplinaires qui y sont enseignés, et donc peut affaiblir très fortement la légitimité du conseil en question. Ce n'est pas automatique, mais c'est un grand risque qui est encouru.
Mais les personnalités extérieures qui vont être nommées par le président, cette liste de personnalités extérieures, de noms, doit être approuvée de toute façon par les membres élus du conseil d'administration.
Oui,
est-ce que ça, ce n'est pas un garde-fou?
Oui, ça l'est relativement, encore que précisément, ça dépend largement du président. On est en tout cas dans une configuration meilleure que ce qui était évoqué dans le projet de loi, où là, ils auraient été numériquement beaucoup plus nombreux. C'est un garde-fou relatif, mais quand même, le gros problème, c'est comment une université est représentée par son conseil d'administration en fonction de ce qu'elle est elle-même, des différentes disciplines qui y sont enseignées. Et là, on n'a plus aucune garantie que ce soit une représentativité réelle.
Alors, dans quelques instants, on va reparler du détail de cette réforme, essayer de comprendre surtout qu'est-ce que ça peut changer, qu'est-ce que ça va changer, ce poids nouveau que vont avoir les présidents d'université avec ce conseil resserré qui l'entourera dans la prise de décision.
c'est sûr. Pour effacer les fissures et que la peau devienne dure, faut pas frotter les blessures, c'est sûr. Si tu veux toucher l'azur, faut pas cracher sur les murs et pas casser les voitures, mais c'est dur. Des fois je me dis que j'ai rêvé, mais quand je me suis réveillé, le cauchemar avait gagné, c'est dur. Parce que c'est comme ça, je te jure. Sur la tête de ma planète, quand s'en ira faire la fête, j'oublierai pas ma triplette, je te jure. Sur la tête de ma petite sœur qui me regarde et qui pleure parce que tu pars avant l'heure, je te jure. Sur la tête de mon petit frère que je voudrais creuser la terre pour enterrer ma colère, je te jure qu'on se reverra. Là, c'est sûr. C'est sûr, il y aura des jours en juillet où le soleil va briller, mais mon bateau va couler. C'est sûr qu'il faudra bien s'accrocher, bouger la tête et les pieds pour réapprendre à nager. Mais c'est dur, des fois je me dis que j'ai rêvé, mais quand je me suis réveillé, le cauchemar avait gagné. C'est dur, oui mais c'est comme ça, je te jure. Sur la tête de ma planète, quand s'en ira faire la fête, j'oublierai pas ma triplette, je te jure. Sur la tête de ma petite sœur qui me regarde et qui pleure parce que tu pars avant l'heure, je te jure. Sur la tête de mon petit frère que je voudrais creuser la terre pour enterrer ma colère, je te jure qu'on se reverra. Là, c'est sûr. Sur la tête de ma planète, quand s'en ira faire la fête, j'oublierai pas ma triplette, je te jure. Sur la tête de ma petite sœur qui me regarde et qui pleure parce que tu pars avant l'heure, je te jure. Sur la tête de mon petit frère que je voudrais creuser la terre pour enterrer ma colère, je te jure qu'on se reverra là, papa.
Voilà, ce n'est plus Mickey 3D, c'est Mickey tout seul, je te jure. Il est 10h, passé de 28 minutes sur France Inter.
Tchatchatchatch. Vos questions, vos commentaires par téléphone au 01 45 24 7000 et sur franceinter.com.
Et je suis sûre qu'après cette émission, on pourra écrire un petit bouquin avec la réforme des universités, expliquer à ma fille, à mon fils ou quelque chose comme ça. On va tout comprendre grâce à vous parce que c'est pas évident, c'est quand même assez technique cette réforme, mais elle mérite vraiment d'être clarifiée. Mes invités ce matin sont donc Anne-Marie Helvétius, Christian de Montlibert et Jacqueline Hénin qui est avec nous par téléphone. Si je reviens à vous, parce que je vous ai un peu interrompu tout à l'heure Anne-Marie, quelles sont donc les conséquences sur l'équilibre des pouvoirs au sein de l'université? Dans la manière dont le président sera désormais élu et quel pouvoir il aura. Qu'est-ce que ça va changer dans l'équilibre des pouvoirs?
Alors, en effet, le président a plus de responsabilités. Je préfère parler de responsabilité que de pouvoir parce que tout dépend en fait beaucoup de la personnalité du président qu'on va élire. Ça, c'est fondamental. Donc, si on a la chance de tomber sur un honnête homme, tout va bien. Mais si, par malheur, on élit un homme de pouvoir, ça pourrait effectivement donner lieu à des dérives.
C'est le problème des institutions.
Christian Montlibert.
C'est le problème des institutions. À partir du moment où on crée un cadre législatif, en effet, il y a de fortes chances que durant quelques années, on ait des hommes effectivement qui prennent leurs responsabilités. Mais la loi autorise maintenant des hommes de pouvoir de prendre en main la direction de l'université et d'y imposer une politique tout à fait entrepreneuriale. Ce n'est pas impossible.
Mais est-ce que ce n'est pas une bonne chose d'essayer aussi de requinquer nos universités quelque part? Vous faites, j'imagine, comme tout le monde, le constat un peu de l'état des universités françaises. Le manque d'encadrement, le manque de moyens, des inégalités et des filières qui sont quand même dévaluées, des problèmes d'orientation à l'entrée et à la sortie. J'imagine que c'est un constat que vous partagez en partie. On ne peut pas dire que tout va bien aujourd'hui
au
à l'université.
Tout va mal, mais l'université, dans son ensemble, bien entendu, avec des variations considérables d'un établissement à l'autre, a su faire face à une crise tout à fait importante, qui a été la croissance spectaculaire du nombre d'étudiants. Et l'université, sans moyens, vraiment sans moyens, il suffit de comparer les crédits investis pour un étudiant de DUG et puis pour un étudiant des grandes écoles, où on s'aperçoit effectivement où va l'argent. L'argent va effectivement à un système de grandes écoles qui, effectivement, ne forme qu'une toute petite partie des étudiants. Et pourtant, c'est eux qui captent la quasi-totalité des crédits, en tout cas des masses extrêmement importantes de crédits.
Bah ça y est, avec cette réforme, les présidents d'université vont pouvoir peut-être capter plus de moyens, non? Ça va être
non,
ça? Ils vont devenir.
Je ne pense pas qu'ils aient plus de moyens d'État.
À une autre forme de recherche.
On les invite, effectivement, à à chercher des contrats. Voilà, on les invite à devenir des entrepreneurs, à trouver des systèmes d'autofinancement. Ce qui me semble, ce qui va transformer considérablement l'ambiance des universités et les modes de fonctionnement. Je vais prendre un exemple qui est cité par ma collègue, Mme Krimsky-Sheldon, Sheldon Krimsky, tout au moins, qui intervient, qui enseigne aux États-Unis sur les problèmes d'insectes, de plantes, etc. Depuis quelques années, son université, sa section, est financée par des entreprises d'engrais, par des entreprises de produits chimiques de traitement de plantes, et elle constate que sans qu'il y ait d'intervention des financiers, tout simplement parce que les chercheurs se sont calqués sur ce qu'ils pensaient être la demande de leurs financiers, ils n'étudient plus les insectes sauvages, ils n'étudient plus les plantes sauvages, mais ils travaillent de plus en plus sur les effets des produits chimiques sur les plantes.
Donc le mécénat, les partenariats avec des entreprises privées...
Vont transformer, voilà, dans la durée, dans 10 ans, dans 15 ans, une loi d'efficacité...
Risque de mettre à mal pour vous l'indépendance...
Dans 15 ans, vont créer un système de dépendance.
Alors, je voudrais tout de même intervenir sur ce point-là. D'une part, il faut rappeler que, à la fois, le président de la République, Nicolas Sarkozy, et sa ministre Valérie Pécresse, dans ses dernières déclarations, ont promis que la réforme s'accompagnerait de moyens financiers dispensés par l'État aux universités.
Oui, ça ne veut pas clairement dire que l'État se désengage.
Voilà. Donc, en principe, il doit y avoir tout de même un apport financier à la clé. Nous l'attendons, hein. Nous sommes inquiets, mais nous l'attendons de pied ferme, parce qu'effectivement, c'est très très nécessaire. J'insiste sur l'état totalement déplorable dans lequel se trouvent actuellement les bâtiments, etc., de l'université.
Mais qu'est-ce
qu'il en... a vraiment des moyens.
C'est pas un gros mot de dire qu'il aurait fallu une qu'il faudrait une planification à 10 ans pour remettre en état les universités.
Alors, d'un autre côté, ce que vous évoquez, le mécénat, c'est tout de même un point fondamental aussi, parce que même si l'État estime, ça à la limite c'est une décision du président, si l'État estime qu'il n'est plus en mesure de financer la totalité des frais de l'enseignement supérieur et qu'il encourage le privé à participer au financement, encore faut-il en définir réellement les modalités. Et je vais quand même prendre un exemple positif, parce que je partage les craintes exprimées par mon collègue à l'instant, mais il y a peut-être aussi un côté positif qui fonctionne très bien chez nos consoeurs européennes. Donc les universités européennes ont assez fréquemment reçu des donations de la part de mécènes qui ne sont pas forcément des entreprises. Donc il ne faut pas tout mélanger. Les fondations universitaires qui sont créées par le nouveau projet, par la nouvelle loi, impliquent aussi qu'on puisse bénéficier tout simplement de donations, par exemple, faites par des anciens étudiants ou par des anciens enseignants, etc., qui souhaitent faire des dons profitant à la communauté. Et ça, à la limite, pourquoi pas? Je dirais que c'est plutôt une bonne chose.
Alors, le président... Oui, pardon, Julia Foyce. Julia Foyce.
Oui, Olivia, alors je vous confirme, hein, c'est vraiment la galère sur Portage. Comment vous dire, ce matin, sur la place de la Sorbonne, il n'y a que des touristes et des familles. J'ai croisé quand même une étudiante, bon, elle ne voulait pas trop me parler, donc du coup, elle était en train de réviser ses examens de septembre. J'en ai croisé d'autres qui étaient des ex-étudiants au chômage technique, donc ils avaient quand même autre chose à foutre que de me répondre. J'ai croisé une étudiante étrangère qui ne parlait pas très très bien français, qui m'a juste demandé s'il y avait un secrétariat ouvert à la Sorbonne. La réponse est non, pour ceux que ça intéresse. Enfin, j'ai trouvé deux jeunes, là, elles sont avec moi, avec un peu de chance, ça va marcher. Bonjour les filles, est-ce que vous êtes en colère ce matin?
Non.
Non? Et alors, par exemple, si je m'assieds là, par exemple, au milieu de vous, et alors que vous êtes en train de discuter tranquillement et que je m'incruse, vous êtes en colère ou pas?
Non, enchantée, ravie, buvez mon jus d'orange.
Eh ben, attendez, alors je le prends. Alors, si je vous en renverse un peu... Oh, pardon! Sur le pantalon, toujours pas en colère?
C'est pas grave, c'est vrai, mon pantalon.
Non, mais il y a rien... Non, mais je vous jure, Olivia, il y a rien à faire. Hein. Les étudiants, aujourd'hui, c'est plus que c'était. Hein.
Et Julia, il y a une auditrice, Barbara, qui vous recommande d'aller du côté du Crous. Où elle dit que peut-être là-bas,
ouais,
vous trouverez un peu de monde.
Du Crous, moi j'ai pas le temps, j'ai qu'une demi-heure devant moi. Alors elle est gentille, mais elle arrête d'envoyer des mails comme ça.
Bah, prenez un vélo, bon, bah, je transmets, hein. Je pense que Barbara vous écoute. À part ça, on revient à notre débat. Et justement, puisque vous êtes près de la Sorbonne, le président de l'université clame haut et fort hein, qu'il est content enfin cette réforme, enfin la réforme. Et sur le point que nous évoquions, la question du financement, il estime que le budget sera quelque part globalisé et qu'ainsi le conseil d'administration pourra répartir plus librement ses ressources. Que ça va permettre de créer notamment des fonds fondations et on pourra plus facilement, vous le disiez, faire appel au mécénat, doté d'avantages fiscaux intéressants pour les donateurs. Ça vous touche, ça vous sensibilise, cette idée que justement le président et son conseil d'administration pourront plus librement distribuer les ressources, Christian de Montlibert ?
Non, je voudrais seulement faire remarquer que dans les limites de l'application de la loi, c'est-à-dire la LOLF, et que la LOLF commence à entrer en application, la réforme effectivement du système de gestion des interventions financières de l'État, et que
et oui, souffle la réponse,
et c'est tout à fait important,
dit quoi,
parce que les présidents ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, ce n'est pas vrai du tout. Ils ne peuvent pas manipuler le budget comme ils l'entendent, dans les limites imposées par la LOLF, qui par exemple empêche de transformer des crédits réservés aux salaires, peuvent être transformés en crédits d'investissement s'ils ne sont pas utilisés, mais des crédits d'investissement ne peuvent pas être utilisés par exemple en salaire.
Jacqueline Hénin.
Oui, moi je voudrais réagir par rapport à cette question du financement. Je suis d'accord avec Anne-Marie Helvétius qu'il y a une dimension qui peut être positive dans l'articulation avec le privé et la possibilité de bénéficier de donations à partir de fondations. Le problème, me semble-t-il, c'est la question de la modalité ou les modalités de l'attribution des fonds. Et comme le soulignait tout à l'heure Christian de Montlibert, il existe un risque que ça puisse se transformer en dépendance vis-à-vis de certains secteurs du privé si précisément on ne définit pas ces modalités et si on ne le fait pas de manière collégiale. Et on en revient d'ailleurs à ce qui a été dit tout à l'heure à propos du conseil d'administration. Comment est-ce que ce conseil d'administration reflète, exprime la collégialité d'une institution donnée? Et c'est là que ça pêche dans la loi qui est proposée, telle qu'elle est proposée, outre le fait que c'est vrai qu'il y a beaucoup de promesses sur les moyens à venir, mais que pour l'instant, on ne les voit pas venir.
Alors comment s'assurer une indépendance, justement, là encore, quelle protection, quelle barrière mettre pour être sûr que le fait d'aller chercher des fonds extérieurs, le contenu pardon, de l'enseignement n'en pâtira pas?
Ben précisément en s'assurant que par la façon dont l'université sera gérée et le poids de ses divers conseils et dont la loi telle qu'elle a été adoptée, il y a un affaiblissement du poids des conseils que sont le conseil scientifique et le CEVU qui s'occupe des formations et des enseignements, que ce poids des conseils soit maintenu et que le caractère collégial soit présent par le fait qu'on s'assure que les différentes composantes de l'université, que sont ces UFR, soient bien représentées, ce qui n'est plus du tout assuré par la loi telle qu'elle a été adoptée.
Anne-Marie Helvétius, vous, votre président à Paris 8, qu'est-ce qu'il en pense de cette idée de devenir peut-être bientôt un président manager, comme nous disait Christian de Montlibert, un président gestionnaire? Le fait de passer de la recherche scientifique à la recherche de capitaux, ça l'inquiète ou pas?
Mais bien sûr que ça l'inquiète. Hein. Je pense qu'il faut vraiment se rendre compte que la responsabilité qui va peser sur les épaules du président risque fort de rendre la fonction de président de plus en plus difficile à exercer aussi. Hein. On n'a peut-être pas encore évoqué le problème, mais je pense qu'il faudrait le faire, le problème du recrutement. Parce que l'un des grands changements proposés par la réforme consiste dans le fait que le recrutement des enseignants-chercheurs va se faire désormais non plus par ce qui existe aujourd'hui, les commissions de spécialistes, mais par des comités de sélection qui sont désignés, donc dont les membres sont désignés par le président et entérinés ensuite par le conseil d'administration. Mais rendez-vous compte, hein, moi je me mets dans la peau d'un président. Le président, comment va-t-il faire chaque fois qu'un poste est vacant pour proposer un comité de sélection, trouver comme ça dans sa petite tête hein, des noms de membres, y compris dont la moitié doit être des membres extérieurs à l'université? Bon, vous imaginez, c'est pas du tout quelque chose de facile. Et il va devoir le faire à chaque recrutement. Il va devoir, comme ça, inventer un comité composé par ses soins et qu'il va soumettre à son conseil.
Alors, et parmi les dits tares du système actuel, il y aurait le problème du localisme. C'est ce qu'on lit un peu à gauche, à droite. Et cette réforme permettrait peut-être d'éviter un peu ça. Le localisme, c'est quoi? Ça tend à favoriser, dit-on, la promotion sur place d'enseignants qui sont déjà en poste.
Oui, c'est vrai. C'est un problème réel qui existe et que nous, en tant que conférence permanente du CNU, c'est-à-dire de tous les présidents et vice-présidents du Conseil national des universités qui avons à nous prononcer sur la qualification de ceux qui vont devenir des maîtres de conférences et des professeurs par la suite et qui seront recrutés ensuite par les universités, nous sommes exprimés et nous avons mis en évidence le fait que nous étions conscients du fait qu'il existe un certain localisme et une tendance à un peu tourner en rond et à faire confiance à ceux qu'on connaît déjà, ce qui ne va pas dans le sens de la mobilité ni des étudiants, ni des maîtres de conférences qui deviennent professeurs, et qui ne va pas non plus dans le sens de la mobilité des écoles, des idées, et peut avoir des tendances tout à fait négatives. Donc on a fait des propositions par rapport à ça, pour limiter ce localisme. Et il y a des éléments dans la loi d'ailleurs qui tendent à ça, avec l'obligation qu'il y ait un certain nombre de membres extérieurs des comités qui soient présents. Ça, c'est une bonne chose. Mais comme le disait à l'instant Anne-Marie Helvétius, à mon avis, c'est ingérable ce qui a été proposé dans la loi, outre le fait que ça ne va pas du tout dans le sens de la collégialité actuelle, où on a des commissions de spécialistes qui sont à la fois élus et nommés, qui sont composés de gens qui savent de quoi ils parlent, qui siègent pour 4 ans, donc qui ont une certaine durée, qui ont aussi une mémoire de ce qui se fait dans un département, de ses besoins. Et là, à mon avis, on entre dans quelque chose qui peut être de l'ordre du n'importe quoi, si vous avez un conseil d'administration où il y a principalement, je ne sais pas, soit des médecins, soit des juristes, soit au conseil, au contraire, des gens des sciences dures, et qui va devoir se prononcer, enfin c'est le président qui se prononcera en définitive, sur la composition des comités de sélection qui seront amenés à recruter.
Question de Montlibert.
Non, je vais poser le problème de manière plus globale. L'université s'est constituée petit à petit en se dégageant des pressions de l'Église, d'abord, qui ont été considérables, des pressions du monde économique, des pressions, d'une certaine façon, de l'État. L'université a été dépendante de l'État pendant très longtemps et petit à petit a gagné, là aussi, son indépendance. C'est un univers qui fonctionne autour de l'élection. Et dans une société aussi hiérarchique que la société française ou que les sociétés européennes, c'est une véritable utopie. Nous élisons nos représentants pour des mandats de courte durée. Nous sommes élus dans les conseils scientifiques, dans les conseils qui s'occupent de la vie étudiante, etc., au conseil d'administration. Le président lui-même est élu pour un mandat de courte durée. C'est un système extrêmement démocratique, très collégial. Or, cette réforme introduit un principe de hiérarchie, finalement, et donne des pouvoirs considérables au président d'université, dont celui de participer au recrutement des futurs chercheurs, des futurs enseignants-chercheurs, ce qui est contraire à toute cette démocratie qui existe au sein universitaire. Et cette démocratie n'est pas quelque chose d'ajouté, en quelque sorte, à l'indépendance de la pensée, à l'indépendance de la recherche. Elle est fonctionnelle, elle est nécessaire. Pour qu'il y ait une créativité, il faut effectivement qu'il y ait une très grande liberté de ton, qu'il y ait des possibilités de conflit, qu'il n'y ait pas de pouvoir hiérarchique au sein du monde universitaire. Créer un pouvoir hiérarchique, c'est effectivement, à terme, détruire effectivement toute l'indépendance d'esprit qui existe, toutes les rapports conflictuels, la possibilité d'avoir des échecs, etc. Le président aura la possibilité de distribuer des primes. Cette possibilité crée immédiatement,
par les bien atteints, par contre,
immédiatement un rapport de dépendance. Ce qui est très très grave et qui, à terme, affecte la capacité de création des chercheurs. Mmh. Car on n'ira pas travailler sur un sujet qui risque de déplaire au président.
Au président, et on essaiera de toucher sa prime. Monsieur. Julia Foyce.
Alors en fait, je suis reporter à France Inter, je travaille pour France Inter, c'est une émission sur la réforme des universités. Vous voulez pas me dire « Bonjour, je m'appelle Fabrice, j'ai 22 ans et je suis très très en colère ». Ah, je crois qu'on est en antenne. Allez-y.
Non, mais moi, je suis étudiant, je suis en colère et je veux aller manifester.
Et la réforme des universités, par exemple, vous trouvez ça plutôt nul ou plutôt n'importe quoi?
Je trouve ça plutôt n'importe quoi.
Et vous allez manifester, bon, par exemple, à partir de quand? De demain?
À partir de demain, ouais.
Et vous allez tout casser?
Je vais pas casser, non.
Non, pas, c'est pas bien de casser, non?
Non, c'est pas bien.
Vous allez juste crier.
Exactement.
Fait. Et vous criez fort ou pas?
Assez fort.
Vous pouvez crier, là?
Non, je peux pas.
Il fallait bien que je me prenne un râteau quand même dans cette histoire. À tout à l'heure.
Merci pour votre objectivité, Julia Foyce. Tout de suite, Rufus Wainwright, Going to a Town. I'm going to a town that has already been burnt down. I'm going to a place that has already been disgraced. I'm gonna see some folks who have already been let down. I'm so tired of America. I'm gonna make it up for all of the Sunday times. I'm gonna make it up for all of the nursery rhymes. They never really seem to want to tell the truth. I'm so tired.
crashed in blood. I'm so tired of America. I'm in the need to know. I may just never see you again, or might as well. You took advantage of a world that loved you well. I'm going to a town that has already been down. I'm so tired of you, America. Making my own way home. Ain't gonna be alone. I got a life to live, America. I got a life.
Réforme des universités, on nous parle souvent de ce classement de Shanghai. La France a récemment été très mal classée dans ce palmarès des meilleures universités mondiales. Un classement qui portait, je le précise, sur la qualité de la recherche et sur la notoriété des enseignants. Est-ce que cette réforme va permettre à certaines universités d'être peut-être plus compétitives? Allez, j'ose le mot, Christian, pardonnez-moi. Anne-Marie Helvétius, est-ce que ça va permettre d'être un peu plus en pointe? Ou de toute façon, est-ce que les universités françaises subiront toujours la concurrence absolument pas équitable des grandes écoles?
Alors, vaste question, sans rentrer dans tous les détails, je pense qu'il faut souligner que le problème des classements, c'est que les critères qui sont utilisés sont très contestables. En outre, il faut souligner aussi que les chercheurs, alors je parle par exemple des chercheurs en sciences humaines et sociales, ne publient pas suffisamment en anglais pour être lus au niveau mondial. Donc ce sont des problèmes qu'on évoque assez peu pour expliquer pourquoi le classement de Shanghai classe mal les universités françaises.
Alors revenons à la maison et restons en France pour savoir un peu
alors, le
ce
problème,
déséquilibre
oui,
entre les grandes écoles et les
voilà.
universités.
Donc le problème du déséquilibre tient au financement. C'est-à-dire qu'un étudiant d'une grande école est nettement mieux financé qu'un étudiant des universités. L'université est le parent pauvre du système, disons, des études supérieures en France. Et il y a en outre une très très grande disparité entre la façon dont les grosses universités de sciences dures sont financées et trouvent des financements extérieurs, et par exemple une université comme la mienne, Paris 8, Vincennes à Saint-Denis, qui est une université de sciences humaines et sociales, et qui, elle, ne peut pas espérer trouver tout à coup des mécènes qui vont s'empresser de venir financer des thèses sur l'art contemporain ou sur le hip-hop dans les banlieues. Hein, donc il faut rester quand même assez lucide et se dire que, bien sûr, ce système favorise nettement des universités, j'allais dire déjà riches, qui vont le devenir encore plus par rapport à celles qui sont déjà pauvres et qui risquent de s'appauvrir encore plus.
Alors, est-ce que vous pensez l'un et l'autre, comme certains présidents d'université ou certains professeurs, qu'il faut s'attaquer au principe de gratuité, que l'un des nœuds du problème est là, à la question des droits d'inscription pour les étudiants? Je pense notamment à Lionel Collet, le président de l'université Claude Bernard de Lyon, qui disait qu'il faut oser aborder la question de la sélection, ce qui est une autre question, mais c'est aussi celle des droits d'inscription, toujours et pour une fois sans hypocrisie, qu'il faut s'attaquer. Ça, c'est le nœud du problème, peut-être.
Si vous permettrez, je fais une intervention de sociologue. Je dirais qu'en 2002-2003, dans l'université, il y avait, dans les classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques, dont le débouché sont les écoles du pouvoir, comme Pierre Bourdieu l'a bien montré, 49,6% d'enfants de cadre supérieur. En médecine, 45%, un petit peu moins. En droit, 37%. En sciences, 35%. En économie, 30%. En lettres, 27%. Dans les IUT, 26%. Et dans les BTS, 13%. Donc, à âge égal, on a une inégalité sociale extrêmement importante. Et je crains fort que la réforme, comme le disait ma collègue, favorise des universités riches qui recueillent déjà les étudiants les plus favorisés socialement et conduisent effectivement à une relative misère les universités ou les sections qui reçoivent le plus d'étudiants populaires, qui auraient besoin le plus grand de moyens, au contraire accentués, pour les aider à compenser le capital culturel souvent qui leur fait défaut.
Est-ce que de la même manière, certaines formations risquent d'être privilégiées en termes d'image ou en termes d'attraction des ressources, vous pensez, certaines filières?
Quant aux filières, les filières professionnalisées sont très loin de répondre, je penserai surtout aux filières professionnalisées, les filières professionnalisées sont très loin de répondre au problème de l'emploi des étudiants. Pas du tout. Pour quelques-uns, bien entendu, mais globalement, ce n'est pas en termes de professionnalisation que l'on peut répondre, dans la mesure où, d'ailleurs, on ne sait pas bien ce que pourra être la professionnalisation dans quelques années, dans la mesure où on ne sait pas quels sont les besoins des entreprises, que les entreprises ont bien des difficultés à énoncer leurs besoins. Donc la filière, c'est au contraire en donnant une formation générale la plus solide possible et la plus critique que l'on aide les étudiants à s'adapter ultérieurement à toutes les variations de l'économie.
Qu'est-ce que vous pensez de cette question, justement, je reviens à vous, Anne-Marie, des filières. Est-ce que, avec ce système de recherche de fonds, ce système de recherche de capitaux, vous pensez, comme le président de la conférence des doyens, Patrick Mestre du Chambon, qui parle de risques mortels pour de nombreuses disciplines qui pourraient être jugées non rentables?
Oui, bien sûr, je crois qu'il y a un risque tout à fait réel. Et il faut absolument, là aussi, faire beaucoup de pédagogie, expliquer aux gens que l'université, c'est une totalité de disciplines différentes qui, en principe, se complètent les unes et les autres. Et il ne s'agit pas de sacrifier l'une pour favoriser l'autre. C'est une absurdité. Alors, dans les universités américaines qui l'ont bien compris, il y a en effet des chaires qui sont financées aussi par des entreprises privées. Je prends un exemple absurde. Une firme de médicaments peut fort bien décider de financer une chaire d'anthropologie sociale sur les études africaines sans que ça pose le moindre problème. Et ce type de démarche n'est pas encore entré, je pense, dans les mœurs en France.
Jacqueline Hénin ?
Oui, moi je pense qu'il y a, contrairement à Christian de Montlibert, je pense que on ne peut pas simplement tabler sur l'enseignement général et il y a un besoin que certaines filières soient mieux articulées à leur environnement et je pense que c'est de l'ordre du possible. Mais ça ne tient pas directement au fait que tel secteur de l'industrie va financer telle ou telle chaire. Et je pense que c'est dans la question des recherches de fonds qu'on ouvre vers le privé, c'est une chose, mais ensuite le mode d'attribution des fonds en question au sein de l'université, c'en est une autre. Et on revient à cette histoire de la collégialité et de la manière dont est gérée une université donnée par l'ensemble de ceux qui y sont présents. Et que le système actuel, et là je le rejoins, qui est fondé sur l'élection des pairs, me semble être une garantie qui risque de sauter totalement avec la loi telle qu'elle a été adoptée.
J'aimerais qu'on écoute Julia Foyce et puis qu'on fasse un dernier petit tour de table et que vous me disiez chacun une proposition, histoire de ne pas rester non plus sur le statu quo, ce que vous proposeriez chacun pour aider à faire avancer un peu l'université. Julia Foyce.
Oui, alors je suis toujours plantée au beau milieu de la Sorbonne, toujours pas un étudiant à l'horizon. En même temps, c'est ma dernière intervention. Moi, ce que je vous propose, pour le coup, puisque chacun y va de sa proposition, eh ben j'y vais, je me jette à l'eau, j'ai même pas peur, regardez, je vais rameuter du monde. 3, 4, étudiants en colère! Y'en a marre de cette galère, étudiants en colère, y'en a marre de cette galère, étudiants en colère. Ça marche pas.
Bon, mais vous inquiétez pas, ça va pas tarder à marcher un de ces jours, ils viendront.
Je commence.
Non, ça suffit, coupez-la. Lilian, coupe-moi ça, merci. Merci beaucoup, Julia Foyce, comme on dit. Toujours en direct de la place de la Sorbonne. Bon, on revient sérieusement à notre discussion, ce dernier tour de table. Qu'est-ce qu'on fait alors pour que ça bouge? Comment on fait pour dépasser le statu quo? Qu'est-ce que vous proposez? Qui commence? Anne-Marie.
Oh, je vais être très directe et très simple. La première chose dont l'université a besoin, ce sont des moyens supplémentaires en personnel et en espèces, j'allais dire en bâtiments, en maintenance, en mise en sécurité, etc.
Christian de Montlibert.
Moi, je dirais qu'il serait urgent, nécessaire, de sortir un peu du mythe. Le mythe n'est pas réservé aux sociétés dites primitives. Il y a aussi des mythes dans nos sociétés, dont témoignent un certain nombre de mots. Il est urgent de sortir de ces mots comme modernisation, marché, ouvert, flexible, dynamique, futur, nouveau, efficacité, croissance, gagner, équipe, adaptation, performance.
Excellence, s'il vous plaît.
L'excellence. La vie, c'est aussi autre chose.
C'est quoi ?
Ça implique effectivement dans le domaine de la science des conflits, des échecs, des allers-retours, des hésitations, des remises en cause d'autres recherches, dans la communication avec des étudiants. Dire que l'université... Finalement, c'est la seule institution. Aucune autre institution ne sait faire ce que fait l'université. C'est-à-dire transmettre un ensemble de savoirs et de modes de pensée, tant bien que mal, bien entendu, pour permettre une synthèse des savoirs, pour permettre la compréhension de nouvelles formes d'organisation sociale qui sont en gestation, pour participer à ces dynamiques de création. Aucune autre institution ne sait faire ce que fait l'université. Et on est en train de le détruire.
Et on forme aussi les artistes et les romanciers de demain à l'université.
C'est pour ça que j'ai parlé de création.
Tarmac, notre époque, et puis juste après, je vous lis deux mails d'auditeurs.
Résonne telle une porte close. Et nous, comment fait-on? Sur quelle idée l'on se repose? Notre époque résonne telle une porte close. Et nous, comment fait-on? Sur quelle idée l'on se repose? Les premiers moments que l'on garde. Mais quel est ce vent qui me glace le dos, qui me regarde? Notre époque résonne telle une porte close. Et nous, comment fait-on? Sur quelle idée l'on se repose? Kiko demande ensuite si l'on peut revenir, si le temps peut sourire, s'il faut s'unir, s'il fallait recommencer, s'il fallait oublier. Je pense bien que je serai pas le dernier à regarder d'abord, à suivre, à être encore quand il faut devenir, ou s'il faut encore moins, car pour un qui s'en va. Mais quel est donc ce vent qui passe, qui me regarde et qui me glace? Et notre époque résonne telle une...
Merci beaucoup à Anne-Marie Helvétius, à Christian de Montlibert et à Jacqueline Hénin d'avoir passé cette heure avec nous. Je rappelle le titre du livre de Christian de Montlibert, Savoir à vendre, et c'est paru aux éditions Raison d'agir. Voilà, non, je n'aurai pas le temps de vous lire des mails, mais ils iront tous sur le site de franceinter.com. Cliquez sur la rubrique émission Tchatchatchatch. Merci à tous.